Un cash out peut en cacher un autre. Aujourd'hui, on retrouve Frédéric Salle qui a vendu Matouma pour une fourchette, alors grosse fourchette, entre 50 et 100 millions d'euros. En tout cas, je le disais, un cash out peut en cacher un autre. Donc, on vous propose en tout cas toujours dans nos épisodes quelque chose qui est something new, un peu à l'image de la chanson que notre invité a choisie. Pourquoi cette chanson ?
Pourquoi cette chanson ? Parce que lorsque j'ai créé l'entreprise Matouma en 2012, je l'ai créée à la maternité, puisque mon fils est né le même jour que le moment où j'ai créé l'entreprise.
Ah ouais.
Donc du coup, je l'ai créée à la maternité à Montpellier.
Plusieurs anniversaires à fêter en même temps.
Et il se trouve que...
Et t'avais le prénom du gamin et le nom de la boîte.
C'est un truc de fou, ouais, exactement. Et du coup, il passait cette musique-là à ce moment-là. Voilà, donc ça m'a
génial.
Toujours marqué en fait.
Et bah du coup, bienvenue Frédéric.
Merci.
Coucou Renaud.
Coucou.
Mon cher compère Renaud Granier. On a donc, je le disais, hein, le plaisir de découvrir l'aventure de ton exit. Une exit qui n'était pas prévue. Et ça, on va y revenir. Mais ce qu'on aime avec Renaud, bah, c'est de péter la chronologie de l'histoire.
Mmh. Et, c'est en dessus, dessous.
Ouais, et je te propose tout de suite de plonger dans le jour J, celui où tu as vendu ta boîte. Et ce jour-là, tu te réveilles en mode... Pourtant, tu n'avais pas dormi.
Non, j'avais peu dormi parce qu'on était déjà à Paris depuis 48 heures au cabinet d'avocats pour régler les derniers détails du document à signer.
Dernier détail, dernière négo, tu veux dire ?
Alors, dernier détail, dernière négo. Tu recommandes, tout était négocié, on croyait. Et c'est vrai que pour nous, l'état d'esprit, c'était de se dire, bah, c'est comme aller chez le notaire et signer pour acheter une maison, en fait.
Mais non.
Eh ben non, c'est pas du tout ça. Si bien qu'on avait réservé le restaurant à 20h, puisqu'on nous avait dit, on va signer à 18h. Donc nous, à 20h, on avait réservé le restaurant, histoire d'aller fêter ça sur Paris. Et on était très serein parce qu'on n'avait jamais vécu ce genre de closing. Et en fait, rien ne s'est du tout passé comme on avait imaginé. Mais rien.
Bah c'est super ça. Ça nous donne de la matière.
Super, tu vas pouvoir... à l'époque, je ne sais pas, mais pour nous, c'est super. Ouais.
A posteriori, pour le podcast, tu vas pouvoir nous raconter en détail cette journée la plus longue.
Ça a été très longue journée. Donc c'est vrai qu'on on était chez nos cabinets d'avocats avec dans une salle donc l'équipe Matouma avec nos conseils donc les banques d'affaires, fonds d'investissement et cabinet d'avocats.
Ça fait du monde déjà.
Plus les associés, oui, ça fait une bonne dizaine de personnes. Dans la salle à côté, donc nos futurs partenaires, nos futurs acquéreurs qui eux étaient là avec la direction financière et leurs conseils aussi.
Dans la salle d'à côté.
Dans la salle d'à côté. Ouais.
On fait pas ça ensemble.
Non, pas du tout. Il y avait une porte qui nous séparait et aucun des deux ne pouvait aller voir l'autre sans demander l'autorisation à l'avocate principale du cabinet d'avocats.
Pourquoi ?
Ah ben c'était pour des raisons de confidentialité en fait. Donc du coup on était chacun de son côté et au fur et à mesure que chacun avait besoin d'éléments, ben on fournissait les éléments un petit peu
Attends,
à droite à gauche.
On parle bien du jour de la signature.
Là je parle du jour du closing. On parle du jour du closing.
Alors on peut préciser que les acheteurs sont anglo-saxons, bon ça n'a rien à voir mais...
Tout à fait, le jour du closing, donc on était bien chacun dans une salle et on affinait les documents en fait, entre les avocats affinés, nous on nous demandait des choses.
Exemple, pardon, je suis désolé
bah
parce
alors,
que jusqu'ici dans tous les épisodes qu'on a fait, tout est dealé, alors des fois même jusqu'à la veille très très tard, le soir dans la nuit, pour définir ce que sera le deal.
Le jour même.
Mais alors du coup...
Le jour même.
Vous n'avez pas signé ensemble.
Je vous racontais. Donc le jour même et donc il nous demandait des éléments notamment.
Mais exemple quoi voilà.
Alors
voilà.
Je fournis notamment fournir ce qu'on appelle les KYC, c'est-à-dire les identifications de nos acquéreurs, puisque nos acquéreurs passaient par un fonds d'investissement et lui-même il fallait qu'il fournisse ses identifications. Le problème qu'il y a c'est que le fonds était basé en l'occurrence pour une partie à Jersey et donc du coup il y avait à peu près 12 sociétés empilées. Et ça ils s'en sont rendus compte le jour même. Donc ça veut dire qu'ils ont passé la journée à essayer de reconstituer tout l'empilage des holdings du fonds d'investissement pour la traçabilité de l'origine des fonds, en fait. Ça, ça prend un temps de dingue. Et donc, du coup, on a vraiment c'était des petits échanges comme ça, par-ci, par-là, finalisation de ce qu'on appelle le SPA, hein, ouais. Donc le document à signer. Et arrive 18h, donc là, bon, on était serein, on s'est dit, bon, ben, c'est bon, c'est comme si
le resto est à 20h,
le champagne était au frais, et on se dit, allons-y, comment ça se passe? Et là, on nous dit, écoutez, à 18h, on vous envoie la dernière version quand même, rejetez-y un œil avant qu'on l'imprime, d'accord? Et là, donc, on rejette un œil, hein, par acquis de conscience.
Et on a eu raison.
Et là, on arrive à l'annexe 8, et là, il n'y avait rien. Il manquait l'annexe 8, en fait. C'est-à-dire, il y a un document qui avait été enlevé. Et là, on leur dit, mais pourquoi vous enlevez l'annexe 8 ?
Ça concernait quoi ?
Je précise ce que c'est, l'annexe 8, en fait. C'est le compte de bilan prévisionnel, d'accord ? Donc, c'est l'EBITDA actuel et futur sur lequel étaient basés les compléments de prix. Et du coup, l'annexe 8...
Oui, c'est pas anodin.
C'est pas anodin. C'est tout le complément de prix de l'entreprise sur 2 ans qui se joue sur cette annexe 8, en fait. Et donc, elle a disparu et on leur demande pourquoi vous l'avez enlevée. Ils disent, c'est tout simple, c'est qu'on a tout négocié avec un EBITDA basé sur la norme française, donc la comptabilité française. Mais nous, nos fonds d'investissement viennent de le refuser parce que, comme on est international, on veut que vous le basiez sur l'IFRS, donc la norme de comptabilité européenne. Donc, du coup, on ne peut pas signer à l'État. Et ça, on apprend ça à 18h. Donc là, branle-bas de combat, on comprend que ça pose problème. Donc, du coup...
Oui, parce que tu ne vas pas signer avec un paragraphe vide.
On ne peut pas signer un cabaret griffe et surtout un bide.
Mais eux connaissaient cet élément, donc c'est une ultime négo de fin.
On n'a pas vraiment compris pourquoi on ne l'a pas découvert avant, alors qu'on a passé 6 mois à négocier sur les BIDA, normes de comptabilité française, et que le jour même, une heure avant de signer, ils nous imposent sur la comptabilité internationale.
Question, parce que je le disais tout à l'heure, vous avez vendu entre 50 et 100 millions. Encore une fois, une grosse fourchette, mais par rapport à ce qui était prévu, du coup, est-ce que toutes ces négos, le jour J, ont modifié le prix qui était décidé 2 jours, 3 jours avant ?
Alors, ça, c'est une bonne question, puisqu'on ne savait pas si ça modifiait le prix ou pas, pour une raison simple, c'est qu'on n'a jamais calculé un IFRS. Donc, réaction immédiate que j'ai eue, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous les directeurs financiers que je connaissais, savoir quelle était la différence entre un EBITDA comptable français et un EBITDA à mode IFRS. Sauf que, ce qu'on me répondait, c'est de dire, il nous faut 15 jours pour le calculer. On ne peut pas te répondre dans les 15 minutes. Donc là, je vais être honnête.
Oui, ce n'est pas une question de multiples, c'est toute une...
C'est tout qui se joue dessus, en fait.
Oui, c'est un autre bilan, avec d'autres règles comptables, etc.
Donc là, je vais expliquer du coup à nos futurs acquéreurs que ça ne se fait pas, ce n'est pas correct de nous changer les règles au dernier moment. Et là, ils nous expliquent que de toute façon, leur fonds d'investissement ne valide pas l'acquisition si on ne se base pas sur l'IFRS. Donc là, 48 heures, qu'en gros, j'étais sur Paris, je n'avais pas dormi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis levé, j'ai pris ma veste, j'ai pris ma valise et je suis parti. C'est-à-dire, j'ai quitté le cabinet d'avocat et je leur ai expliqué que je rentrais chez moi.
Tu pars avec une destination en tête.
Ah, je rentre chez moi. C'est-à-dire, je repars à l'aéroport et je rentre à Montpellier.
Et là, tu dis, à ce moment-là, je vais pas vendre.
Et là, je me dis, de toute façon, le deal est mort, puisque si on n'a pas ce document, on ne peut pas signer. Donc, dans ma tête, pas une, pas deux, je me dis, quitte à ne pas signer, on va pas rester plus longtemps dans cette situation. Et du coup, je m'en vais. Et là, mon avocat me court après. Donc, du coup, il me rattrape par le col. Et il me dit, mais pourquoi tu pars ? J'ai dit, mais parce que c'est mort, parce que de toute façon, on n'a jamais discuté de ce point-là, et c'est pas à une heure qu'on va le résoudre.
Et pas dans deux pièces séparées.
Il y a quand même
une ambiance particulière d'être chacun de son côté.
Puis la manière de faire aussi, j'imagine.
C'est très compliqué comme situation. Du coup, mon avocat me récupère. Et il me remonte quand même dans le bureau malgré tout, puisque si moi je pars, il n'y a pas de closing, puisqu'à la limite, c'est moi qui dois signer.
Mais il ne pouvait pas y avoir de closing sans le paragraphe.
Non, il ne peut pas y avoir le closing sans le paragraphe.
Alors comment ?
Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je reviens. Là-dessus, la banque d'affaires qui nous accompagnait, qui pareil a pris une douche froide parce qu'ils ne l'ont pas vu, se met un petit peu à réfléchir comment est-ce qu'on allait faire. Et on essaie tant bien que mal, pendant 2 heures, à essayer de comprendre c'est quoi la différence entre un EBITDA comptable français et un EBITDA IFRS. Et là, on comprend qu'une fois qu'on l'a posé, qu'au pire, il va se jouer entre 2 et 5% d'écart, en plus ou moins. En fait. Voilà, on ne sait pas vraiment. Et du coup, à 22h, je prends la décision, parce que là, la décision, elle est sur moi. Donc, c'est moi qui prends la décision de dire soit j'arrête le deal, soit j'accepte leurs conditions sur cet EBITDA, donc un IFRS. Et là, donc, en ayant pris des renseignements à droite à gauche de tous les conseils, je me fais mon opinion et je me dis, bon, de toute façon, au pire, il y a un écart de 5%, en plus ou en moins. D'accord ? Donc, à ce moment-là, je vais voir Richard, le directeur financier de notre acquéreur. Et je lui explique que on est sur quelque chose qu'on n'avait pas discuté et qu'on sait que c'est deal breaker, c'est-à-dire le deal ne peut ne pas se faire sur cet élément-là. Et je lui dis, de toute façon, voilà, c'est ni à ton avantage ni au mien que ça se passe mal dans le pourcentage s'il y a un écart. Parce que s'il y a un écart trop important pour toi ou pour moi, il y en a un des deux qui va être dépositionné. Mmh. Et à l'arrivée, ça n'a pas de sens dans la relation qu'on va avoir qu'il y ait déjà un litige qui se crée dès le rachat. Donc je lui dis, écoute, là, on est au mois de juillet. Donc...
Ça, tu lui dis par petit papier d'une pièce à l'autre.
Non, je lui parle directement. Là, on se parle en face à face. Là, il faut que ça se règle entre hommes, bah entre guillemets. À l'émotionnel, il faut que ça se règle. Donc je lui explique que de toute façon, on va signer tel quel. Je prends la décision de signer. Qu'en septembre, on va quand même faire auditer ce mode comptable pour vérifier s'il y a un écart ou pas. Et en fonction, si on voit qu'il y a un écart important, on se permettra de faire un avenant à la négociation pour éventuellement remettre à plat le deal.
Je me permets, mais... Tu signes, s'il y a un avenant qui est à leur faveur, il n'y a aucune raison qu'ils décident de faire un avenant 6 mois après.
Oui, mais je prends le risque.
Tu prends ton risque.
Voilà, sur ce type de deal, je prends la décision. À un moment donné, il faut prendre une décision, je prends la décision d'y aller quand même.
Parce que tu dis qu'à 5%, finalement, ça reste quand même une belle vente.
Je me dis, c'est dommage de passer à côté, voilà, pour éventuellement 5%.
Sur le ratio, encore une fois, sur le cash que tu as tout de suite et le earn-out, il est important.
Alors, on était sur du à peu près 60-40 entre le cash immédiat.
60 de cash
et 40 ensuite d'earn-out basé sur 20 et 20 sur 2 années.
Et donc, les 5%, c'est sur les 40.
Et exactement. Ouais, et les 5%, c'est sur les 40.
Et quand tu dis 20 et 20 sur 2 années, c'était donc un earn-out sur 24 mois ?
Oui, tout à fait.
Et 20 et 20, ça se, sur quels agrégats c'était basé cette
Alors, l'earn-out est basé sur la performance des bidins.
Uniquement.
On avait défini.
Donc que... 20 la première année, 20 la deuxième année ?
C'est ça.
D'accord.
Exactement. Donc, et là, on était linéaire avec une règle de calcul qu'on avait mis en place pour avoir un EBITDA linéaire jusqu'à 100% et un accélérateur si on était en dessus de 100% en fait.
OK.
C'est quoi le prénom de la personne à qui que tu as les yeux dans les yeux ?
Alors à ce moment-là, la personne que j'ai, c'est Richard, okay. qui est donc le directeur financier.
Et du coup, avec Richard, vous discutez à 22h, vous n'avez pas mangé ? Donc,
alors, on n'a pas mangé.
Le resto est annulé, j'imagine. Alors, la champagne est toujours au frais, oui.
Il est bien frais, le champagne.
Le resto, du coup, on l'a annulé parce qu'à 20h, on a compris qu'à la limite, on n'allait même pas signer ce jour-là, qu'on ne savait même pas si le deal allait se faire. Le champagne, il est resté
au
frais.
Vous auriez pu aller au resto avec deux tables dans deux pièces différentes.
Mais attendez, ce n'est pas le plus drôle. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que comme lorsque j'ai fait le deal, j'ai fait une donation avant session à mes enfants, il fallait qu'ils soient représentés. Et donc, à l'occurrence, c'est mon père qui représentait les enfants. Donc du coup, j'avais dit à mon père de venir au cabinet d'avocat à 18h. Et donc, il est venu à 18h, effectivement, puisque lui venait de Montpellier. Et là, à 18h30, je lui annonce que, ben, de toute façon, ça ne va pas se signer. Et il se trouve que ma sœur habite sur Paris, donc ma sœur vient le récupérer pour le prendre à son appartement. Et quand, à 23h, on se rend compte que c'est bon, on s'est mis d'accord, on va enfin pouvoir signer... Donc là, je rappelle ma sœur pour qu'elle puisse ramener mon père au cabinet d'avocat pour qu'il puisse signer. Sauf qu'entre-temps, mon père s'était couché. Et donc, il était en pyjama. Donc du coup, il a fallu que ma sœur réveille mon père, qu'elle le rhabille et qu'à 23h30, elle le ramène au cabinet d'avocat pour qu'il puisse signer le deal. Bon, sauf que là, on pensait que c'était bon, on allait enfin signer. Mais non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça encore. À ce moment-là, à 23h, quand on est tous d'accord, c'est là où ils se sont mis à imprimer les documents. Sauf que ce type de document...
Ah ben, t'en as des pages.
C'est donc, t'étais 15... encore à l'impression.
On était encore à l'impression.
Pas de DocuSign.
Et non, on était encore à l'impression. Donc, ça veut dire qu'il y avait 15 documents de 150 pages chacun. Donc, il a fallu qu'ils impriment ça. Ça a mis à peu près 1h30. Donc, vers minuit et demi, ils ont amené les documents. Et là, moi, je pensais que chez le cabinet d'avocat...
Donc, ton père était arrivé depuis 1 heure. Là,
ah, il était déjà depuis 1 heure.
Il était content
d'être... Ouais, et en plus, on l'avait réveillé. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a 5 personnes qui descendent de l'étage, assez jeunes, du cabinet d'avocats, qui amènent les documents. Et là, c'est vrai que ma réaction, c'est de me dire, mais ils sortent d'où ces gens-là, à cette heure-là ? Je trouvais ça fou, comme sur le temps que peut prendre un deal sur le closing. Donc, on a attaqué à minuit et demi à signer, sauf que
150
documents à signer. En plus, il fallait tout écrire de façon manuscrite. Mmh. Et ce que j'ai compris...
Tu paraffes toutes les pages.
Il fallait tout paraffer et je ne savais pas qu'on ne pouvait pas me remplacer. C'est-à-dire, moi, j'avais demandé à mes conseils de dire, ben, prenez-en la moitié, je prends la moitié. Mais non, il faut que ce soit mon écriture à moi. Mmh. Et donc, il fallait que j'écrive chaque fois une phrase, ce que tu as connu. Mais il fallait...
Moi, c'était en DocuSign.
Il fallait que j'écrive chaque fois une phrase de 4 lignes sur tous les documents que je signe. On a fini à 2h du matin. Voilà, la signature a eu lieu à 2h du matin. Entre-temps,
Tu sors, il n'y a plus de resto.
Ah, mais alors, entre-temps, notre avocat, à 23h, quand il a vu qu'on allait signer, il est allé acheter 10 pizzas chez la pizzeria qui avait en face le cabinet de l'avocat, 2 bouteilles de rosé au cas où. Et du coup, on a mangé à 2h du matin des pizzas froides. On n'a même pas bu le rosé parce qu'on était lessivés, on n'en pouvait plus. Et donc, du coup,
resto champagne, c'est devenu pizza coca.
C'est devenu pizza coca.
Ouais,
à 2h du matin, exténué, on n'en pouvait plus. Et là, du coup, on part à 2h du matin. Donc là, on commande le taxi pour aller à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, je n'ai pas dormi de la nuit. C'est simple, je suis resté les yeux ouverts toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. Impossible.
Du fait de comment ça s'est passé.
Ah ouais, de la tension qu'il y a eu et où on est monté à une tension extrême. Ouais, où pour nous, ça n'allait pas se faire de toute façon. Et où elle arrivait.
Et la charge émotionnelle, quoi, l'ascenseur émotionnel est maximal. Quoi.
Alors c'est maximal, et puis c'est 6 mois aussi de discussion, donc déjà ça monte quand même crescendo dans les discussions. Et puis surtout, on était convaincus que le jour même, ça ne se faisait pas. Donc je m'étais même projeté dans ma tête de dire c'est fini, on passe à autre chose. Donc je commençais à passer à autre chose.
Et donc de devoir expliquer aux équipes que finalement non, que
tout ce que ça impliquait derrière, ouais. Et qu'on avait travaillé depuis 6 mois avec nos conseils, avec les équipes.
En plus, je crois savoir, Frédéric, que à 2h du matin, l'argent n'est pas sur le compte.
Non, à ce moment-là, comme ça se fait en deux phases, il y a un signing ce jour-là et un closing qui se fait 15 jours après. Donc ce jour-là, on ne fait que signer les documents et ensuite, l'argent n'est récupéré que lors du closing, qui lui s'est fait 15 jours après à Montpellier.
Ok, ça c'est une spécificité vis-à-vis de ton acheteur, parce que nous, souvent dans l'émission, on a reçu des invités où c'était le jour J et les fonds étaient reçus le jour J, la signature était faite le jour J.
Alors, c'est une spécificité, pas forcément de l'acheteur, mais c'est une spécificité de timing. C'est-à-dire que comme on a reçu les KYC assez tardivement, ça veut dire que les fonds n'ont pas pu verser l'argent avant le closing du deal.
Okay.
Donc, c'est pour ça que ça s'est fait 15 jours après. Mais c'est assez banal. Hein. Enfin, la banque d'affaires m'a expliqué que ça se faisait, soit on faisait tout le même jour, soit on pouvait dissocier les deux à 15 jours d'intervalle entre le signing et le closing.
Alors, question, je ne me suis jamais demandé, puisque ça me paraissait évident, mais si à 15 jours, l'argent n'est pas sur le compte, il se passe quoi? Ça annule le deal?
Alors, je m'en suis inquiété, parce que c'est vrai que quand je signe chez un notaire, j'aime bien avoir l'argent de suite. Ouais. Mes conseils m'ont rassuré en me disant que de toute façon, dès lors que c'était signé, il n'y avait aucun risque que l'argent n'arrive pas sur les comptes, que de toute façon, tout était sécurisé en amont.
C'est séquestré.
C'est séquestré. Okay. Donc du coup, j'étais plutôt rassuré, mais je me l'ai supposé.
Petit flashback, on revient sur le début de la boîte, mais surtout toute cette phase de négo de 6 mois, où en fait, peut-être qu'on n'aura rien à dire, parce que tout s'est dealé...
Le 48 dernier.
Non, j'en ai bien conscience. Pour parler de toute cette période, tu as choisi une chanson qui était chère à un autre de nos invités, Stéphane Bobo. On l'écoute. Ça hoche de la tête dans les studios.
Like the legend of the Phoenix.
Alors, je vois le timing qui passe, on a un timing assez serré ensemble, donc j'accélère volontairement même si on aime beaucoup cette musique.
Ben, on aime bien parler du day one pour revenir vraiment sur la création de la boîte, comment ça s'est passé, etc.
Donc ça se passe que à ce moment-là, j'ai 37 ans, je suis responsable du marché des cartes SIM pour objets connectés chez l'opérateur SFR et on me demande de développer ce nouveau marché qui n'existait pas et c'est ce que je fais. Et en allant voir des industriels, je me rends compte qu'il y a un truc qui colle pas. C'est que je vends des cartes SIM SFR à des industriels qui, eux, installent des objets connectés du type des alarmes, des panneaux photovoltaïques, des eurodateurs, des Vélib, par exemple, partout sur un territoire. Et puis, des fois, il y a du réseau et puis, des fois, il n'y a pas du réseau. Et forcément, quand il n'y a pas de réseau, ben là, ils m'appellent et me disent « Monsieur Salle, j'ai des cartes et pas de réseau, donc je ne peux pas connecter mon objet, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, moi, je ne suis pas magicien, donc je leur explique qu'en gros, je n'ai pas 50 autres solutions que leur dire d'aller acheter une carte Orange et une carte Bouygues. Et puis, ben, ils testent le réseau en fonction de comment ça passe. Et quand ça marche, ils mettent la carte SIM. Bon. Sauf que ça, c'est pas acceptable parce que ça pose plein de problèmes. C'est qu'il faut avoir des contrats avec tous les opérateurs. C'est compliqué à gérer. Il faut que les techniciens aient 3 cartes SIM dans la poche. Voilà. Donc, je me rends compte qu'il y a un problème, il y a un truc qui colle pas. Et deuxièmement.
Et quand il y a un truc qui colle pas, il y a une opportunité de marché.
Exactement. Et mon cerveau réfléchit un peu comme ça. Et du coup, je me dis, tiens, il y a un truc à jouer, c'est de créer des cartes SIM qui pourraient s'adapter à tous les réseaux et que ça ne soit pas à chaque fois une carte, un réseau. Mmh. Donc du coup, je monte le projet et je vais voir ma direction chez SFR pour leur expliquer que le marché est en train de bouger par rapport aux besoins des industriels et que dans le futur, il va falloir deux choses. C'est un logiciel qui va permettre aux industriels de gérer leur parc d'objets connectés et de cartes SIM, parce qu'aujourd'hui, ils le faisaient avec des fichiers Excel, mais sur des millions de volumes prévisionnels, ce n'était pas possible. Et deux, il va falloir aussi des cartes SIM qui s'adaptent elles-mêmes au réseau et pas arriver à jongler entre plusieurs opérateurs. Et c'est là où ma direction a refusé ce projet, en m'expliquant que ce n'était pas forcément le métier d'SFR d'aller là-dessus. Donc, ils m'ont expliqué que j'avais qu'à démissionner et le faire moi-même. Donc, je les ai pris au mot, j'ai démissionné et je l'ai fait moi-même.
Très bon conseil de la part de SFR.
Bon conseil.
On les remercie.
Et c'est de là où on est parti.
Et donc, Matouma, machine to machine.
Tout à fait.
On accélère volontairement. Petite ellipse. La boîte grandit bien. Et il va y avoir, un moment, j'imagine, un premier contact avec le futur repreneur. Mais je sais qu'il y a un contexte de marché qui est particulier, si on peut revenir dessus.
Oui, tout à fait. En fait, c'était pas une volonté d'aller chercher une société qui allait nous acquérir. C'est-à-dire, à la base, tout part du fait qu'on a fait une levée de fonds en 2014.
Quand tu dis on n'en a pas parlé.
Autant pour moi, la société Matouma a fait une levée de fonds de.
Mais t'étais en associé, t'étais en
oui,
écoutier.
Oui, j'étais associé avec John Aldon et ma femme, Nadège Salle. Donc, on était tous les trois associés. Et on fait une levée de fonds de 1 million d'euros en 2014 et on dilue de 20%.
OK.
Et il se trouve que dans le contrat que nous ont fait signer les fonds d'investissement, ce qui est normal aujourd'hui, il est précisé qu'à 5 ans, eh bien, il faudra qu'on ait une clause de sortie pour eux. Donc, on arrivait en 2019. Et donc, je me devais de trouver une clause de sortie. Et du coup, mon premier réflexe, c'était soit de faire un emprunt bancaire pour racheter les 20%, soit de faire éventuellement un LBO pour ensuite aussi faire un peu de patrimoine personnel pour chacun des fondateurs. Et on partait dans cette idée-là. Et donc, on avait missionné une banque d'affaires pour nous trouver donc un acteur qui pourrait travailler avec nous sur le LBO. Et c'est au moment où on commence à monter le dossier que je reçois un coup de fil, qui était donc le directeur général d'un de nos concurrents, qui s'appelle Wireless Logic, qui est un groupe anglais qui est leader sur le secteur des cartes SIM pour objets connectés. Et il m'explique qu'ils veulent me voir. Et donc, ils m'invitent à déjeuner. Donc, ça s'est fait à Aix-en-Provence.
Tu les connaissais
Alors,
déjà ?
Alors, je les connaissais parce qu'on se croisait sur des salons. Et il se trouve que le directeur général est français et il habite à Aix-en-Provence.
D'accord.
Voilà, donc du coup, je vais déjeuner avec eux. Et c'est là où, ça a été très amusant, puisque chacun a expliqué sa position. Donc, moi, je leur explique que je vais faire un LBO. Et donc, j'en profite aussi pour faire une levée de fonds et que je vais développer Matouma sur toute l'Europe pour être, d'ici 3 ans, leader européen. Et eux m'expliquent que leur projet, c'est de développer toute l'Europe pour être leader européen.
Et a priori, qui peut gagner à ce moment-là ?
Et à ce moment-là, je me dis, un leader, a priori, il n'y en aura qu'un. Donc, ça sera eux ou ça sera nous, mais ça ne sera pas les deux. Et donc, du coup, je leur explique que donc, on va faire un LBO mixé à une levée de fonds qui va nous permettre de développer ce marché. Et eux m'expliquent que de l'autre côté, qu'ils viennent de faire une levée de fonds assez conséquente sur le marché anglais, puisqu'ils sont basés à côté de Londres.
Les montants, tu les connais ?
Alors, les montants, je ne les connais pas précisément, mais c'est très conséquent et beaucoup plus que ce qu'on peut arriver à lever en France. Voilà. Enfin, en tout cas, en 2019. Et c'est vrai que quand ils me donnent le montant de la levée de fonds, je comprends que je ne peux pas lutter. Voilà, je veux dire, on était entre 5 et fois 10 en écart. Enfin, c'était énorme l'écart qu'il y avait entre ce que moi je levais et ce que je levais en fait.
Ce que j'ai vu en ligne, c'est que c'était près de 500 millions, peut-être un peu en dessous.
Ouais, à peu près. On est à peu près là-dessus.
De leur côté.
De leur côté, là où nous, on était plus proche d'aller lever 60 millions.
Ok. Donc, oui, effectivement, c'est.
David contre Goliath. Et là, le rapport de force change du coup.
Et c'est là où, dès l'apéritif, je comprends que ça va être compliqué pour nous, même avec cette somme-là, d'aller s'imposer sur le marché européen.
Et donc, une fois que tu fais ce constat, tu leur dis, sinon on peut faire quelque chose ensemble. C'est eux qui arrivent avec cette proposition.
Alors, à ce moment-là, du coup, je leur dis, un leader, il n'y en aura qu'un. Donc, qu'est-ce que vous proposez, du coup ? Et ils me disent, nous, ce qu'on te propose, c'est de t'acquérir. Et comme ça, on s'associe pour développer ensemble le marché européen. Puisque eux étaient plutôt basés sur l'Angleterre et sur le nord de l'Europe, là où nous, on était sur la France et plutôt sur le sud de l'Europe. Donc, de toute façon, on était complémentaires.
Parce que ça, c'était un des concurrents. Il y en avait d'autres ou vous le partagez à deux, ce marché-là ?
Alors, des gros faiseurs en Europe, il y avait Wireless Logic et nous. Et ensuite, dans chaque pays, il y a une société, une start-up qui avait été créée comme nous. Il y en avait un en Espagne, en Italie, enfin voilà, il y en avait un dans chaque pays européen.
Et un gros acteur américain peut-être ou
Alors oui, mais les acteurs américains ne venaient pas sur le marché européen. Ils sont vraiment restés sur le marché américain.
Okay.
Et du coup, le projet donc, de Wireless Logic, c'était à terme de pouvoir consolider tout le marché européen en rachetant chaque acteur de chaque pays pour pouvoir ensuite s'imposer.
On a deux options, Frédéric, parce qu'on est très bien. Je sens en plus que tu as énormément d'anecdotes, mais tu as aussi un avion à prendre.
Hein. Oui.
On entend à ton accent que tu viennes du Sud. Du coup, pour accélérer un tout petit peu sur la partie négo,
oui.
Quels sont les gros sujets de deal, de frottement ?
Donc déjà, pour la partie négo, une fois qu'on a eu terminé ce déjeuner, on a convenu de se revoir un mois plus tard chez Matouma avec toute la direction générale de Wireless Logic. Donc ils sont venus du coup au bureau à Troyes. Et nous aussi, on était trois. Et pendant trois heures, on a échangé sur nos activités respectives. Et on a compris qu'on faisait exactement la même chose, mais en décalé, puisqu'eux avaient démarré à peu près 20 ans avant nous. D'accord ? Donc, là-bas, au bout de trois heures de discussion, la banque d'affaires leur a expliqué que nous, on était sur un process de LBO. Et que donc, du coup, on voulait bien leur laisser 15 jours de créneau pour qu'eux puissent éventuellement se positionner si ça les intéressait. Sinon, on était obligé ensuite de closer, nous, notre LBO. Et c'est là où ça a été assez lunaire, hein, ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est du jamais vu d'Ixis, la banque d'affaires. Alors moi, évidemment, je n'avais jamais vu, parce que je n'avais jamais vécu. C'est que le PDG de la boîte, à ce moment-là, s'est mis à rire. Et donc, on ne comprenait pas vraiment pourquoi il rigolait. Et là, il dit à la banque d'affaires, « Non, mais moi, je vous fais l'offre dans 15 minutes. » Et là, donc du coup, ils se sont tous levés. Ils ont tous été dans mon bureau. Ils ont pris un papier. Ils ont rédigé l'offre sur papier. Et ils sont revenus 15 minutes après avec l'offre sur le bureau. Et là, mon rôle, c'était de ne pas bouger, de ne pas sourire, de ne pas froncer un sourcil, quel que soit le montant qui était marqué.
Poker face.
Voilà,
exactement. Tu avais préparé ton coup et c'était plus que prévu.
C'était, on était bien. On était bien, déjà sur la première
Sachant
proposition.
Sachant que lui, il avait préparé son coup après.
Lui, je pense qu'eux, ils avaient forcément préparé. Nous, on n'avait pas forcément préparé, mais eux, oui.
Avec cette levée de fonds qu'ils avaient, en plus, je crois qu'il y avait, d'autres fonds qui devaient rentrer dans la foulée, leur objectif, leur ambition, c'était de racheter deux boîtes par an.
Oui, tout à fait. C'était de consolider le marché en rachetant deux sociétés et dont nous en priorité à racheter. Donc du coup,
c'est vrai, d'écrire manuscritement la LOI et de la présenter sous 15 minutes, c'est très rare.
C'était très étonnant et du coup, on leur a expliqué qu'on allait réfléchir, évidemment. Et nous avons reçu donc la LOI, une vraie LOI au bout de 15 jours.
D'accord.
Pour le coup.
Le montant qui est sur ce papier, c'est le même que le montant final ?
Non. Non,
c'est au-dessus, c'est en dessous.
Ouais, c'est au-dessus. Alors, c'est au-dessus pour des raisons toutes simples. C'est qu'il faut aussi que la banque d'affaires ait son rôle. Mm-hmm. C'est-à-dire que la banque d'affaires qui nous accompagnait était partie sur un LBO. Et là, en l'occurrence, le repreneur, c'est nous qui le leur présentions. Mm. Parce que, d'accord ? Parce que normalement, le rôle d'une banque d'affaires, c'est de trouver la société qui va acquérir. Donc, du coup, on leur a demandé forcément de faire valoir le fait qu'à terme, l'entreprise, vu le développement de l'EBITDA, puisqu'on doublait l'EBITDA tous les ans, forcément, il y allait avoir une valeur à 2-3 ans qui n'était pas la même que la valeur initiale. Et donc, on leur a demandé de discuter donc, sur des compléments de prix versus le prix qui était proposé au départ. Donc, sur le prix initial, on était sur le bon prix sur le one-shot, c'est-à-dire sur le front. Et ensuite, eux, ils ont négocié tout le supplément derrière.
Du coup, on accélère. Juste sur d'autres anecdotes de cette négo.
Alors ensuite, donc tout s'est joué entre Paris et Londres, puisque le cabinet d'avocats qui avait choisi cette entreprise était sur Paris. Donc ensuite, une fois par mois, on allait sur Paris pour faire les discussions. Et puis, nous sommes allés aussi deux fois à Londres, un petit peu parce qu'on voulait visualiser leurs équipes, comment est-ce qu'ils étaient structurés, où est-ce qu'ils étaient placés. Enfin, on avait besoin de voir avec qui est-ce qu'on allait travailler.
Concrètement, quoi.
Et oui, parce que moi, ce que j'expliquais aux collaborateurs, et qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est que je voulais que la société avec qui on allait s'associer ne change rien à ce qu'on avait mis en place, à la fois pour les collaborateurs, pour les clients. Donc je voulais pas en fait qu'ils effacent Matouma, qu'ils mettent Wireless Logic à la place et que les collaborateurs, eux, se retrouvent totalement dépositionnés. Donc je me suis assuré qu'il n'y aurait pas de changement à tous les niveaux. Et franchement, je les en remercie parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire plus de deux ans après, ils n'ont rien changé comme ils s'étaient engagés.
Et c'est pas toujours le cas.
Et c'est pas toujours le cas.
Et c'est bien de le noter. Du coup, tu vas dealer aussi un temps pendant lequel tu vas devoir rester dans la boîte.
Oui.
Et donc, je te propose d'accélérer sur les fameux jours d'après. Et pour ça, tu étais...
J'ai tendance à bloquer.
Bloqué.
J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. Bloqué. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer.
Bloqué peut-être.
Et là,
si j'ai compris le message.
Et là, il m'arrive l'accident bête. Voilà, dès le lendemain de la vente, on part en vacances avec mon associé, son épouse et mon épouse. Et on part au Club Med. Et voilà, c'est...
Alors,
j'irai pas jusque là, mais pas loin. Et dès le premier jour, je me dis, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de sport, je vais aller me détendre un peu en faisant un petit tennis. Et là, à 11h du matin, rupture totale du tendon d'Achille, je me retrouve aplati comme une crêpe sur le terrain. Opération en urgence sous 48 heures, parce qu'il faut aller très vite dans ces cas-là pour récupérer.
T'étais où géographiquement ?
J'étais à Nice.
Ok.
Et du coup, il faut récupérer le tendon. Donc, opération à Nîmes sous 48 heures. Ensuite, je suis resté 2 mois au lit le temps que ça cicatrise. 6 mois de rééducation. Donc, pendant ce temps, je n'ai pas pu aller au bureau. Et dès lors que je suis sorti de la rééducation, c'était en mars 2020, confinement, Covid. Donc, j'ai repris 2 mois. Et là, autant dire que en juin 2020, j'ai appelé mon avocat pour lui demander de négocier mon départ, puisque de toute façon, ça faisait à peu près 1 an que j'étais pas retourné au bureau et que l'entreprise tournait très bien d'elle-même sans mon action. Donc, de toute façon, j'avais pas nécessité à rester.
Le deal s'était dressé combien de temps à la base ?
Le deal, c'était, bizarrement, j'avais pas négocié de délai. En fait, je restais le temps que je voulais. Eux ne me bloquaient pas, mais j'avais prévu, par contre, de faire partie de la holding européenne qui gère le groupe et j'avais prévu d'être actif dans la gestion du développement européen de l'entreprise.
T'avais un earn-out aussi, du coup, qui était prévu, tu l'as dit tout à l'heure, à peu près 40%.
Tout à fait. J'avais un earn-out sur 2 ans. Ouais. Donc, année 1, année 2.
Et, donc, c'est au moins le temps quand même où t'es censé être loqué.
Alors, si c'était pas corrélé. En l'occurrence, normalement oui, mais dans notre cas, on n'était pas corrélé. C'est-à-dire, l'earnout n'est pas corrélé avec ma présence, puisqu'on l'avait négocié, ça dans le deal.
Ok. Mais a priori, tu dis que tu as plus de chances de le faire si tu es là.
C'était plus prudent que je sois là pour superviser. Ouais. Mais en l'occurrence, la première année, on s'est rendu compte qu'on avait explosé les chiffres alors que j'étais pas là. Donc, j'étais très confiant sur mes collaborateurs avec qui j'avais travaillé, qui avaient repris la gestion de l'entreprise et qui avaient la capacité à la développer sans moi.
Donc, au bout d'un an, tu pars.
Donc, je pars au bout d'un an.
Il se passe quoi l'année 2, alors ?
Ah, alors là, c'est là où ça devient compliqué, bizarre, paradoxalement. C'est que je pars, donc là, c'est l'été, donc je pars en vacances avec ma femme et mes enfants, tout va bien. Et puis arrive le 3 septembre, c'est la rentrée des classes. Donc là, j'amène les enfants à l'école et je suis à 9h chez moi, à mon bar, dans ma cuisine, en fait, avec un café. Et là, je comprends que j'ai plus rien à faire. Et là, gros coup de stress. Et je me mets en panique, et là je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Et là, j'ai plus rien à faire.
Mais tu participais pas à la holding européenne ? Du coup, tu n'avais plus d'activité opérationnelle ?
Du coup, j'avais quitté l'entreprise, mon avocat avait négocié mon départ, donc je n'avais plus aucune activité tout court.
Et tu ne l'avais pas prévu, ça, cet agenda ?
Je n'avais pas prévu du tout. C'est-à-dire, je n'avais...
Tu ne t'imaginais pas devant ton café en te disant, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?
Non, je n'avais pas imaginé, et je ne pensais pas que ça allait me mettre en panique surtout. Donc là-dessus, mon épouse pète un câble. Elle comprend que ça va être compliqué de me voir tourner en rond à la maison. Là, je me dis, je vais appeler des potes pour aller boire un café ou pour discuter. Mais tous mes potes me disent, mais on travaille. Donc là, je comprends que...
Mais pourquoi ?
On peut déj, si tu veux, on a une heure pour déj.
Exactement, j'ai une heure pour déj, mais je dis, ok, mais... Et je n'ai pas préparé, parce que je ne me suis pas projeté jusque-là. C'est-à-dire, vu tout ce qui m'est arrivé, je n'ai pas pu me projeter. Et c'est là où mon épouse me dit, écoute, va, trouve-toi du boulot, va faire quelque chose, parce que ce n'est pas possible de tourner en rond à la maison comme ça. Et je sens que ça peut mettre en danger mon couple, au passage, cette histoire.
Pas facile de repartir en tant que collab, salarié, quand t'étais entrepreneur.
Très compliqué, j'ai du mal à me projeter à repartir salarié, et du coup, je me mets bénévole dans une association. Donc, je trouve une association à Montpellier.
Ouais, le sujet, c'est de s'occuper.
C'est de m'occuper. Financièrement, on est sécurisé, et Dieu merci sur ce coup-là, on est chanceux, il faut être clair. Mais par contre, je n'ai pas d'activité. Donc, je me mets bénévole dans une association. Et c'est en étant bénévole dans ces associations d'aide aux familles en difficulté, que je comprends la problématique qui peut se poser entre l'association, l'entreprise, puisque maintenant je vois un petit peu les deux côtés. Et c'est là où dans ma tête, je commence à me dire pourquoi je ne repartirais pas sur un autre projet.
Eh ben, super transition. Ah ben, j'ai déjà entendu ça dans le dernier épisode.
Moi aussi, ça me parle.
C'est que Jérémy Bendayan.
Je l'écoute tous les soirs avec mon fils, moi.
Ah ouais ?
Je la connais bien.
Son tour, un royaume de solitude m'a placé là pour toujours.
Bon, du coup, pendant tout ce temps, tu as le temps d'apprendre, libérer, délivrer avec tes enfants.
Ouais, exactement. Donc, du coup, on arrive à se faire des petits week-ends, tout ça, avec les enfants. Parce que c'est vrai que j'ai pas été très présent, qui plus est, pendant quelques mois. Entre le deal et l'accident derrière, c'était un peu compliqué. Et sauf que bah, du coup, il y a le temps où ils sont à l'école. Et c'est là où il faut que je m'occupe. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en étant dans cette association, ma première réaction, c'est de comprendre que cette association, les locaux sont vides, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose pour recevoir les bénévoles et pour recevoir aussi les bénéficiaires. Et donc, je leur explique de dire, mais pourquoi vous n'avez rien? Il n'y a pas assez de chaises, il n'y a pas assez de tables, il manque plein de choses dans votre association. Alors ça, c'est mon côté entrepreneur, après. Et ils me disent, ben oui, parce qu'on n'a pas les moyens de nous acheter. Ben, j'ai dit, mais je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste que c'est très facile à trouver. Moi, chez Matouma, par exemple, quand on a redimensionné les bureaux, j'avais plein d'équipements, que ce soit des bureaux, des chaises, des tables. On ne savait jamais quoi en faire. Et puis, du coup, si on a pu les donner à une association, ça aurait fait une bonne action pour
plutôt
tout le monde.
Plutôt que de les mettre à la benne.
Ben, plutôt que de les mettre à la benne. Ouais, comme
ce qui se fait
naturellement, voilà, dans beaucoup d'entreprises. Et du coup, je loue un camion, je vais chercher les équipements chez Matouma, je les ramène à l'association, je meuble l'association et on vend à 5€, 10€ sur des petites sommes, eh bien, ce qui restait, des lampes, des fauteuils aux bénéficiaires qui étaient très heureux de pouvoir acquérir ce type d'équipement de qualité.
Pour pas cher et de toute manière, là où la boîte allait les mettre à la benne, donc et ça ne rapportait rien.
Exactement. Là où
plus tout le sujet écologique qu'il peut y avoir derrière.
Non, mais c'est impensable, en fait, c'est impensable de faire ça et pourtant, pendant des années, c'est ce qui s'est fait. Et du coup, je réfléchis de façon sur le digital. Je me dis, mais c'est assez amusant comme activité. Comment le digital, finalement, pourrait aider les entreprises à se séparer de leur équipement et faire en sorte que tout un écosystème puisse les acquérir. Et donc, je me mets à écrire une... c'est bête, mais je me mets à écrire une plateforme digitale qui permet aux entreprises de mettre leur équipement dessus. Et ensuite, de pouvoir soit les vendre à d'autres entreprises locales, soit de pouvoir les donner à des associations en échange de compensation fiscale. Et je pars dans cette idée, sans savoir si vraiment ça avait du sens et si ça pouvait marcher. Et quand je creuse le sujet que je regarde, je ne vois pas grand-chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire, je voyais bien qu'il y avait Vinted pour les particuliers, pour tout ce qui est habits.
Mais on pense Recommerce. À Le Bon Coin.
Alors, ouais, bon, après, tu as Recommerce, Back Market.
Je remets Back Market pour tout ce qui est l'électronique recyclée.
Exactement, sur électronique.
Et pourtant, je ne trouve rien sur les équipements professionnels.
Or, tu l'as vu.
Et pourtant, il y a un vrai sujet à tous les niveaux. C'est-à-dire, il y a d'un côté des entreprises qui veulent se séparer parce que voilà, parce qu'elles redimensionnent, elles déménagent, et d'autres qui veulent s'installer et pour des raisons de coût et aussi philosophiques, qui veulent bien s'équiper en seconde main, mais personne ne le fait parce qu'il n'y a rien qui existe pour le gérer. Et donc, du coup, je me dis, c'est l'occasion, allons-y. Donc, il fallait que je trouve à ce moment-là un ou une associée qui était directrice financière. Puisque moi, l'administratif, ce n'est pas forcément ce qui me passionne, il faut être honnête. Et j'en parle à une de mes amies qui s'appelle Sophie Scantamburlo, qui est à ce moment-là directrice financière d'un traiteur sur Montpellier, qui trouve l'idée géniale, qui pose sa démission dans la foulée et qui me rejoint pour qu'on s'associe et qu'on crée la société.
Elle a eu du nez ?
Elle est ravie. Je pense qu'elle revit.
Parce que là, on n'a pas donné de volume, de montant, mais c'est démentiel. En quelques mois, vous avez signé des comptes incroyables. Je crois que vous venez de lever, là.
Oui, tout à fait. Donc, en quelques mois, donc, nous avons lancé la plateforme le 18 novembre 2021. Donc, c'est assez récent. Là-dessus, donc, là où on pensait que ça allait être des petites PME, start-up qui allaient nous utiliser pour se séparer de leur équipement, on se retrouve en fait avec des énormes groupes comme Crédit Agricole, Airbus, Eiffage, Vinci, voilà, j'en passe et des meilleurs, qui nous ont rejoints en fait parce que c'est une vraie philosophie aujourd'hui pour ces entreprises de ne plus jeter. C'est-à-dire, il y a eu vraiment un monde avant, un monde après.
Et elles s'en servent aussi au niveau market ?
Alors, ça sert bah, déjà au niveau marketing, oui, mais c'est surtout au niveau RSE. Et puis, c'est vraiment ancré en termes de philosophie. Et je crois que vis-à-vis de leurs collaborateurs...
C'est stupide, enfin, à un moment...
C'est du bon sens. Mais je crois que ça reste aussi, vis-à-vis de leurs collaborateurs, c'est pas possible aujourd'hui qu'une boîte jette des équipements qui sont encore utilisables, alors qu'on sait qu'il y a plein d'entreprises qui en auraient besoin. Voilà, donc on a créé cette plateforme digitale qui s'appelle Scope 3, SCOP3, et qui permet donc de donner une deuxième vie aux équipements professionnels. Donc, on est en train de développer le marché de la seconde main de tout l'équipement professionnel.
Et en fait, on se rend compte que c'est pas que des bureaux, c'est pas que des ordinateurs, c'est pas que des chaises.
Et non, ça va beaucoup plus loin. C'est qu'on se retrouve aujourd'hui à gérer des machines-outils. On va trouver des perceuses professionnelles. On va trouver des établis. On va trouver des caisses de rangement, des armoires industrielles. En fait, c'est tout ce qu'on ne voyait pas avant parce que ça partait à la benne, qui ressort aujourd'hui et qui plaît beaucoup parce que ça développe ensuite tout un ensemble de nouveaux aménagements pour des entreprises qui veulent faire de nouveaux aménagements ou s'installer.
Alors, sur 100% des produits que vous devez récupérer dans les entreprises, que maintenant vous pouvez gérer tout, en fait, évidemment, tout n'est pas réutilisable, tout ne se réemploie pas.
Non, effectivement, on sait que par ratio, on a à peu près 80% d'équipements qu'on va pouvoir réemployer, c'est-à-dire soit ils vont être vendus sur le marché de la seconde main à une autre entreprise, soit donnés à des associations, ça c'est aussi ce qu'on privilégie, et on sait qu'il y aura toujours 20% d'équipements parce que voilà, ils sont cassés et c'est pas raisonnable de pouvoir soit le vendre, soit le donner, qui vont partir à la benne, mais qui ensuite vont partir en recyclage. Donc de toute façon, c'est tout ensuite, tout le cursus du recyclage qui va jouer.
Et tu t'es associé avec un acteur hyper important dans le domaine du recyclage.
Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que après 4 mois de lancement du MVP, on s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien puisque nous avons 200 entreprises qui sont inscrites sur la plateforme. Et donc nous avons séduit des fonds d'investissement et des industriels, et notamment nous venons de boucler donc une levée de fonds supérieure à 1 million d'euros avec un fonds d'investissement traditionnel qui s'appelle IRDI Soridec, qui est donc sur l'Occitanie, et un gros acteur de tout ce qui est gestion des déchets qui s'appelle le groupe Nicolin, qui donc nous rejoint au capital.
Ambition de Scope 3, devenir le leader européen du réemploi.
Alors, moi, l'ambition, elle n'est pas trop en termes de taille, elle est surtout en termes d'équipements qu'on va pouvoir sauver. Voilà, mon ambition, c'est que si déjà on arrive à sauver un grand nombre d'équipements sur la France, on sera déjà pas mal. Si on doit se développer à l'Europe, on le fera, parce que si la solution plaît, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas.
Mais je connais une boîte qui voudrait se développer et être leader européen aussi, et voilà. Peut-être on peut te mettre...
Restons humbles sur le sujet.
En relation. Gros sujet aussi sur l'hôtellerie.
Gros sujet sur l'hôtellerie, puisque notamment sur l'hôtellerie de luxe, ce qu'il faut savoir, c'est que les hôtels aujourd'hui doivent changer leurs équipements, qui sont souvent très beaux, c'est souvent de la marque, du Stark, voilà, on a des belles choses. Et faute de débouchés, eh bien, souvent, ils les entreposent dans des énormes entrepôts dans leur localité, et ça fait peut-être 10 ans que
ça ne bouge pas.
Et là, il y a un énorme sujet pour pouvoir justement les remettre sur le marché aussi.
Bah déjà, bravo.
Ouais, merci.
Franchement, tu vois, je suis obligé d'accélérer, mais on aurait pu, je pense, rester 2 heures ensemble.
On aurait pu.
Ça, c'est le problème de devoir prendre un avion et tous les sujets.
Et puis le sujet est hyper, hyper intéressant, mettre la tech au service d'eux.
Tout à fait.
Alors, sur cette partie de ta vie d'entrepreneur, Frédéric, je crois qu'on a une question de Valérie Gouillot de Pontavis. Bonjour Valérie.
Bonjour à tous les deux. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Je m'interrogeais sur ce moment de signature et juste l'après. Est-ce que vous vous êtes senti accompagné par votre banquier ? Est-ce que vous vous êtes senti rassuré ?
Alors, nous, quand on a fait la vente de l'entreprise, on était accompagné par une banque d'affaires et on était accompagné par un cabinet d'avocats. À ce stade-là, je n'avais pas encore de banquier privé parce qu'on ne savait pas si le deal allait au bout. Et donc, du coup, je ne m'étais pas posé la question d'avoir forcément un banquier privé, sachant que je ne savais pas à ce moment-là à quoi ça allait me servir. Donc, du coup, je n'en avais pas pris. Et je reconnais qu'après coup, j'en ai eu besoin. Voilà, c'était d'une utilité presque... On pouvait pas s'en passer. Sur un deal, il faut absolument avoir un banquier privé à la fin du deal. Sauf que je reconnais
Pourquoi ?
Parce qu'il faut être accompagné sur toutes les stratégies et sur tout ce qu'il y a à connaître dans le placement de fonds issus de la vente d'une entreprise. Et ça, ce n'est pas naturel. C'est-à-dire, ça, personne ne nous l'apprend. Donc, du coup, il n'y a qu'un banquier privé qui peut nous expliquer sur quoi on va être confronté, quelle est la législation aussi en cours, notamment sur l'aspect fiscalité. Et tout ça, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément anticipé.
Jean-Renaud, là, qu'elle est interrogée, mais je pense deviner ta question, Renaud, c'est est-ce que tu as fait un coup de folie ? On avait à ce micro, à ta place, Frédéric PKM, qui lui s'est acheté une île. Est-ce que toi, tu t'es dit, mon coup de folie, ça y est, j'ai beaucoup bossé. Là, maintenant que j'ai un peu de sous sur mon compte, je m'offre ça, j'y ai droit.
Donc, j'ai pas fait de coup de folie. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore fêté la vente de l'entreprise.
Merci Valérie.
Avec grand plaisir.
Je te propose du coup de se quitter avec la musique sur laquelle tu as fêté le deal ou sur laquelle tu avais envie de fêter le deal.
J'avais envie.
Parce que tu l'as dit.
J'avais envie.
Mais là aussi. Là, c'était une chanson choisie par PKM dans un de nos premiers épisodes. Pierre Cusco-Morizet. The Final Countdown.
Ah oui.
Europe.
Ah, voilà. Parce que ça me rappelle les grosses fêtes que l'on a fait. Eh bien, on les a faites avec cette chanson. Il n'y a pas de grosses fêtes sans cette chanson. En l'occurrence, on aurait aimé faire une grosse fête pour fêter le deal et on n'a pas pu.
Eh ben, on va se quitter là-dessus. Un énorme merci, Frédéric.
Ben, merci à vous. C'était un plaisir.
On va suivre les aventures de Scope 3 et on va recycler, réemployer à merci ce magnifique échange sur l'ensemble des plateformes. Je recommande d'ailleurs à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, de commenter, de mettre des étoiles, de liker, de partager et ces fabuleuses histoires d'entrepreneurs et ces playlists qui font qu'en fait je ferais mieux de me taire.